la science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans La Science s'amuse, la croisière scientifique de Divergence FM en partenariat avec l'Université de Montpellier. Et cette semaine, nous mettons le cap sur l'hémisphère sud. Dans les Andes, en Amérique centrale, en Indonésie, en Nouvelle-Guinée et sous les tropiques en général, subsistent encore des espèces animales dites écologiquement rares. Subsistent car menacées et avec elles tout leur écosystème. Alors aujourd'hui, je ne vous propose pas un safari, ce serait de mauvais goût, mais une navigation à vue pour mieux comprendre le rôle de ces espèces et l'importance des enjeux qui touchent à leur conservation. Pour nous guider tout au long de cette escale, notre invité du jour est chercheur à l'Université de Montpellier, à Marbec, le laboratoire de biodiversité, d'exploration et de conservation marine. Il publie ce mois-ci, dans la prestigieuse revue Nature Communications, les résultats d'une étude menée avec la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, le CNRS et l'Université de Grenoble, ainsi que plusieurs universités américaines. Donc une étude qui cartographie ces espèces écologiquement rares et insiste sur le rôle unique et irremplaçable qu'elles jouent dans leur écosystème. Bonjour Nicolas Loiseau.
Bonjour.
Et bienvenue. Elle aussi est une espèce rare et tout aussi irremplaçable. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour Lucie. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous proposons un reportage à deux voix dans les couloirs de la plateforme de simulation de la faculté de médecine. Et c'est Blaise Debien, médecin urgentiste, qui nous fait la visite. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors, Nicolas Loiseau, pour commencer et afin d'éviter la confusion dans l'esprit des auditeurs, donc votre étude, elle porte sur les espèces écologiquement rares et pas sur les espèces rares. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux notions ?
Donc, une espèce rare, c'est une espèce qui va avoir une aire de distribution qui va être restreinte ou une abondance très restreinte. Et une espèce rare écologiquement, on va y rajouter une originalité fonctionnelle, une association de traits fonctionnels, de régime alimentaire, de masse corporelle, de son activité qui va être différente des autres espèces. Pour faire simple, on va s'intéresser aux espèces qui sortent de l'ordinaire.
Et donc ces espèces qui sortent de l'ordinaire et que vous avez étudiées, en l'occurrence pour cette étude, c'est des mammifères terrestres et des oiseaux. Est-ce qu'on pourrait avoir le même type d'étude avec des mammifères marins, des poissons, des insectes ou des plantes par exemple ?
On pourrait bien entendu. Le problème qu'on a sur certains taxons, c'est le manque de connaissance des caractéristiques fonctionnelles, des traits. Pour caractériser l'originalité fonctionnelle, il faut avoir une bonne base de données de l'ensemble des traits de ces espèces-là. Et on ne l'a pas pour tous les taxons.
Un taxon, c'est une famille
un grand groupe d'espèces, les plantes, les insectes. Et ces bases de données existent pour les mammifères terrestres et les oiseaux.
Alors justement, ça va être l'occasion de parler un peu de votre méthodologie. Donc vous avez travaillé à partir de bases de données, comme vous venez de le dire. Ces bases de données, elles viennent d'où en fait ? Qui les a réalisées ?
Donc c'est des grandes bases de données. On est à l'ère du Big Data où il y a l'IUCN qui va regrouper les données des différents chercheurs, des différentes observations.
Alors, j'allais vous la poser un peu plus tard, mais l'IUCN, qu'est-ce que c'est ?
C'est l'Union internationale pour la conservation de la nature.
D'accord, merci beaucoup.
Et associé à la BirdLife internationale, et ils fournissent les aires de distribution de ces espèces, des oiseaux et des mammifères terrestres, à l'échelle globale, et ils associent aussi les caractéristiques fonctionnelles de ces espèces-là.
Et du coup, pour qu'on visualise bien ce que c'est qu'une espèce écologiquement rare et le rôle qu'elle joue, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples qui soient un peu emblématiques pour vous ?
On en a des très différentes. Donc chez les mammifères, on va avoir des chauves-souris très particulières qui vont être parfois très grosses et manger énormément de fruits, qui vont manger des graines et qui vont sortir de l'ordinaire. Chez les mammifères, on a des kangourous arboricoles. Donc c'est des gros kangourous qui mangent des fruits et qui sont capables de faire des sauts de 9 mètres entre les arbres. Donc c'est vraiment des espèces particulières et qui vivent sur des toutes petites aires de distribution.
Avec cette étude, vous vous inscrivez justement en faux contre un présupposé, donc qui est que les espèces écologiquement rares, elles ont finalement un rôle écologique moins important que d'autres. Donc ce présupposé-là, il vient d'où ? Il vient d'un manque de connaissance de ces espèces ou d'une... Oui.
Ce présupposé, il se base d'abord sur l'effet de masse, c'est-à-dire que plus une espèce est abondante, plus elle va avoir un impact sur son écosystème. C'est assez facile à comprendre. Si on a plein de vaches dans un pré, il y aura un effort de broutage qui sera fort. Mais l'écosystème, il est plus complexe que ça, et c'est comme un moteur. On a besoin de petites pièces très particulières qui vont permettre à ce moteur-là de tourner. Et donc on est parti sur cette supposition que les espèces rares écologiquement avaient un rôle sur l'écosystème.
Et du coup, ces espèces rares, dans votre étude, on les trouve essentiellement dans l'hémisphère sud et sous les tropiques, les montagnes des Andes, la Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, l'Amérique centrale. Est-ce que ça signifie quelque chose, le fait qu'on les trouve essentiellement dans l'hémisphère sud? Il y a une raison particulière à ça?
Donc ça, c'est des études qui vont suivre, on espère. C'est, les hémisphères sud, c'est souvent des hotspots, des points chauds de biodiversité. Avec des écosystèmes très particuliers, mais on a besoin d'aller voir aussi dans le passé, est-ce qu'on a eu des paléoclimats très particuliers qui ont permis l'émergence de ces espèces-là, ou est-ce que c'est des espèces qui sont plus adaptées et qui sont sur le déclin? Ça, c'est la suite qui va nous le dire.
Qui serait plus adapté à quoi? À quelles conditions?
Aux conditions actuelles, par exemple des espèces qui vivaient dans des zones très montagneuses, avec des forêts très particulières, qui sont en train de disparaître et qui donc ont pu être adaptées au reste de l'écosystème environnement.
D'accord.
Et concernant l'hémisphère nord, on a encore donc des espèces écologiquement rares, ou alors est-ce qu'on peut imaginer que finalement elles ont disparu?
Alors il y a un effet échelle spatiale à laquelle on a travaillé. On a travaillé à l'échelle globale. On comparait les espèces entre elles sur l'ensemble des espèces, dans l'ensemble des mammifères et l'ensemble des oiseaux. Et à cette échelle globale, on ne ressort pas d'espèces écologiquement rares à l'échelle de l'Europe. On en trouve par contre aux États-Unis, on en trouve en Chine, donc aussi en hémisphère nord, mais on n'en trouve pas en Europe. Par contre, si on restreint l'échelle spatiale et qu'on travaille à l'échelle de l'Europe, on trouvera toujours des espèces qui ont des fonctions particulières, qui sont originales et qui ont des aires de distribution restreintes.
Un autre point que vous mettez en avant dans cette étude, c'est leur régime alimentaire. Donc vous en avez parlé un petit peu. C'est essentiellement des espèces qui sont frugivores ou nectarivores. Est-ce qu'il y a là aussi une raison, ou en tout cas un lien entre le fait que ce soit des espèces écologiquement rares et ce régime alimentaire?
Le lien de cause à effet, il est compliqué et il n'émerge pas de notre étude. Ce qu'on montre, c'est que ces espèces-là, frugivores, nectarivores, ont des aires de distribution très petites et elles vont permettre la pollinisation de plantes et donc d'avoir un rôle écologique majeur dans l'écosystème. Après, on ne trouve pas que des nectarivores ou des frugivores, on trouve des espèces, par exemple, on a le ninox, qui est un tout petit rapace qui se nourrit essentiellement de sauterelles dans les forêts. Donc il va avoir un rôle écologique majeur pour éviter que ces sauterelles envahissent des forêts primaires. Donc on a vraiment leur régime alimentaire particulier, leur mode de vie particulier, va faire en sorte que ces espèces vont avoir un rôle clé dans l'écosystème.
Et justement, vous nous parlez de ce rapace qui mange des sauterelles. Souvent dans votre papier, vous parlez dans votre article, vous parlez de double peine concernant ces espèces. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y aura un impact non seulement sur l'espèce elle-même qui disparaît, et sur tout l'écosystème qui serait perturbé par le rôle qu'elle remplit?
La double peine, tout d'abord, elle est à l'échelle de l'espèce. C'est-à-dire que quand on a une espèce qui a une aire de distribution très restreinte, c'est déjà une première peine parce qu'elle aura peu de possibilités de fuir si jamais son habitat est détruit, impacté par l'humain.
Parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter pour vivre un autre habitat, vu ses caractéristiques.
Exactement. Et la seconde peine, c'est que ces espèces-là sont menacées par nos activités humaines.
Et du coup, est-ce que vous auriez d'autres exemples? On parle du coup, j'imagine que si ce rapace, cet oiseau disparaît, les sauterelles vont proliférer. Ça veut dire que, quelque part, ces espèces-là, elles sont irremplaçables, vu leurs caractéristiques. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, si c'est le cas, d'espèces dont la disparition pourrait entraîner des conséquences sur l'écosystème?
D'autres disparitions,
voilà.
En fait.
On a, par exemple, des petits marsupiaux à Madagascar qui sont spécialisés dans la pollinisation des plantes, parce qu'ils vont manger le nectar et les fruits de ces plantes, et ils sont capables de polliniser jusqu'à 700 espèces. Donc si on perd une espèce, on perd une capacité de polliniser 700 autres espèces de plantes, donc on va menacer l'ensemble de l'écosystème juste avec cette petite espèce.
Oui, donc il y a des plantes qui pourraient elles-mêmes être amenées à disparaître si ce marsupial venait à disparaître.
C'est ça. C'est la même chose avec les oiseaux-mouches qu'on trouve dans les montagnes en Amérique du Sud, qui sont très spécialisées avec des coévolutions entre les plantes et les espèces d'oiseaux.
Alors vous notez également que ces espèces écologiquement rares, elles sont surreprésentées dans les espèces menacées donc par l'UICN, dont vous nous avez déjà parlé. Comment on explique cette surreprésentation ? Enfin, déjà, c'est dans quelle proportion ?
Donc, si on compare les espèces écologiquement communes, c'est-à-dire qui ont des grandes aires de distribution et des fonctions que l'on trouve régulièrement dans les espèces, avec les espèces écologiquement rares, on a vraiment une différence de menace, enfin de caractérisation de la menace qui est très différente. Les espèces écologiquement communes, en régional, on a 2% ou 0,5% de ces espèces qu'on va retrouver dans la liste rouge IUCN, alors qu'on a 71% des mammifères écologiquement rares qui sont menacés, et pour les oiseaux, c'est 44%. Ça s'explique parce qu'elles ont une aire de distribution très restreinte, et l'IUCN prend en compte cette caractéristique pour établir ces statuts de la liste rouge.
Et quand justement l'Union internationale de conservation de la nature établit sa liste rouge, est-ce qu'elle tient compte de ce caractère-là, qui est la rareté fonctionnelle d'une espèce pour les classifier ?
Non, par contre, elle ne prend pas en compte cette caractéristique-là, et on lance un appel dans le papier à la prise en compte de cette caractéristique. L'IUCN, il va prendre en compte l'aire de distribution restreinte, l'état de la population en termes d'abondance, en termes de diversité génétique, mais elle ne va pas regarder à quel point cette espèce va être rare écologiquement, distincte des autres espèces, pour établir son statut de conservation.
Du coup, justement, quand il s'agit de conservation, vous montrez que ces espèces, elles sont aussi plus sensibles à la pression anthropique, la pression qui est exercée par les activités humaines, que les espèces écologiquement plus communes. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a une plus grande sensibilité ?
Donc, ce qu'on montre, c'est que leur aire de distribution se recoupe plus avec l'impact humain que les autres espèces. Donc, cette menace, elle peut s'expliquer que leur aire de distribution est très restreinte. Donc, à partir du moment où l'activité humaine rentre dans leur aire de distribution, elles n'ont pas moyen de s'échapper, pas moyen de s'adapter, et donc elles vont devenir menacées.
Et c'est la même chose avec le réchauffement climatique. Vous montrez qu'elles sont aussi plus sensibles au réchauffement climatique. Et comment est-ce que vous avez pu justement montrer ? Est-ce que vous avez fait des modélisations ? Vous avez utilisé des modèles du GIEC ?
Donc, sur le réchauffement climatique, on a utilisé les données du GIEC sur les projections à venir du changement climatique avec tous les différents scénarios. Donc il faut savoir que c'est assez compliqué de modéliser de la rareté écologique parce qu'on finalement on a peu d'informations sur ces espèces-là. Donc on a vraiment fait des approches de multimodèles et on montre que les espèces écologiquement rares, en particulier les oiseaux, vont être plus impactées par le réchauffement climatique que les espèces qui sont écologiquement communes. Donc on a un risque de perte de cette originalité fonctionnelle dans les écosystèmes due au réchauffement climatique.
Et cette originalité fonctionnelle, du coup, si jamais une espèce rare, un oiseau par exemple, venait à disparaître, est-ce que le rôle spécifique qu'il remplit pourrait à terme être rempli par une autre espèce qui, elle, s'adapterait spécifiquement pour, par exemple, vous parliez de cet oiseau pollinisateur, est-ce qu'on peut imaginer qu'une autre espèce d'oiseau allait remplir, qui ne remplit pas ce rôle-là à l'heure actuelle, pourrait le remplir et prendre sa place, en fait, le remplacer s'il venait à disparaître, ou c'est inenvisageable ?
Là, on parle sur des temps écologiques qui sont beaucoup plus grands, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une espèce qui va évoluer pour remplacer la niche vacante. Et le temps de ce processus-là est beaucoup trop long et on aura une perte, par exemple, des plantes qui étaient pollinisées par l'espèce qui a disparu. Donc, et puis, la façon dont on définit l'originalité fonctionnelle, par définition, c'est une espèce qui va être toute seule, qui va être originale par rapport aux autres espèces. Dans l'espace fonctionnel, elle va être seule. Donc, elle n'est pas remplacée par une autre espèce.
Donc, elles sont réellement irremplaçables,
oui,
de ce point de vue.
Et est-ce qu'il y a des espèces... Donc là, on parle des espèces écologiquement rares. On parle beaucoup des espèces rares. Est-ce qu'il y a des espèces, finalement, dont la disparition n'entraîne pas la disparition d'un écosystème? On parle des animaux emblématiques, l'ours blanc, l'éléphant. Quelle est la différence finalement entre la disparition de ces animaux et la disparition de ces espèces qu'on qualifie d'écologiquement rares?
À partir du moment où il y a une espèce qui disparaît, il y a un impact sur l'écosystème, qu'elle soit commune, originellement commune ou originellement fonctionnelle. Dans tous les cas, il y aura un impact sur l'écosystème. C'est sûr. La différence, c'est qu'on est à l'heure où on a l'obligation, on est obligé de faire des choix de conservation. Et si on a le choix entre protéger une espèce qui est écologiquement commune et une espèce qui est écologiquement rare, on peut peut-être se poser la question en se disant protégeons la rare parce qu'on sait qu'on perd une fonction. Alors que la commune, on a toujours une autre espèce qui va faire quelque chose d'un peu similaire et qui va peut-être pouvoir remplacer.
D'accord. Il y a une irréversibilité, en fait, avec les espèces écologiquement rares, c'est ça ?
C'est ça, en sachant qu'il y a toujours c'est toujours irréversible la disparition d'une espèce.
Alors, justement, votre étude, elle conclut, enfin, elle invite à changer de paradigme en matière de conservation. Vous avez des pistes justement pour pousser, il faut que ce soit politique cette dynamique pour les sauver, ces espèces écologiquement rares?
De la politique de conservation, évidemment, mais là, c'est la première chose, c'est malgré la reconnaissance scientifique de l'importance de la rareté, on montre que ces espèces qui sont déjà juste rares sont mal protégées, sont peu dans les réseaux de réserves. Et si on rajoute la notion d'originalité fonctionnelle, alors là, on a des espèces qui sont plus du tout protégées, et ou qui ont des statuts parfois mal établis. Donc en fait, on plaide pour juste prendre en compte, que l'IUCN prenne en compte cette originalité fonctionnelle lorsqu'elle définit les statuts de conservation, juste prendre en compte la capacité à faire différemment des autres espèces comme un critère de conservation.
Bien, un grand merci Nicolas Loiseau d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc pour plus d'informations sur cette étude, rendez-vous sur la page de l'émission sur le site divergencefm.org ou sur le site de l'Université de Montpellier. Et on passe maintenant en salle des machines. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur le campus Arnaud de Villeneuve, dans les locaux de la nouvelle faculté de médecine, au CESU, le centre d'enseignement en soins d'urgence. Là-bas, nous attendent de curieuses machines, des robots patients utilisés par les étudiants en formation ou les personnels soignants pour parfaire ou apprendre les gestes techniques qu'ils auront à reproduire ensuite sur nos chères petites carcasses. Et c'est le médecin urgentiste Blaise Debien, qui nous fait la visite.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la simulation en médecine ?
Alors la simulation en santé, c'est quelque chose qui apparaît relativement, nouveau. Nouveau parce qu'on en parle beaucoup, parce que vraiment ça a été diffusé maintenant. En fait, on apprend simulation depuis Hippocrate. On va aller très très loin. La réflexion de la simulation, c'est quoi ? C'est mettre la personne en situation, puis après, on va débriefer. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de la simulation ? On agit. On agit et le fait d'agir va permettre de mobiliser toutes les connaissances que l'étudiant a finalement acquis et va mobiliser en situation.
Eh bien, on vous suit. C'est parti.
Alors ici, on est dans la salle commune où l'ensemble des étudiants vont pouvoir se réunir. Alors ils se réunissent avant, ils se réunissent pendant et ils se réunissent après.
Donc là, on s'apprête à rentrer dans une salle qui s'appelle Réanimation et gestes d'urgence.
Ce mannequin, que vous allez voir, c'est Siman 3G. Siman 3G, il a plein de particularités. C'est qu'il est capable de retransmettre finalement tous les signes qu'un homme peut avoir réalisé et effectué. D'abord, dans le domaine relationnel, il est capable de parler. Il est capable d'avoir de l'émotion aussi, parce qu'il est capable de pleurer. Il est capable d'avoir des sécrétions. Il est capable d'être présent. Et l'évaluation de la conscience, elle va se faire parce qu'il ouvre les yeux, il cligne des yeux. On va même pouvoir évaluer ces réflexes pupillaires. Donc, vous voyez, c'est extrêmement pointu comme type de robot, en quelque sorte.
Comment ça fonctionne alors ?
Alors, le mannequin, lui, il est programmé. Il est programmé pour pleurer, vomir, avoir une langue qui gonfle, avoir des souffles particuliers. Tous les jours, je peux changer ce patient. Je peux lui faire un souffle de raississement aortique, comme je peux lui faire aussi une insuffisance cardiaque avec un souffle majeur. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire dans le cadre d'une histoire virtualisée dans un espace finalement qui lui est virtualisé. Donc on est loin du patient. Alors ça c'est assez chouette parce que le fait d'être loin du patient, ça veut dire qu'à ce moment-là, on apprend sans danger pour le patient lui-même. Voilà.
C'est ce que j'allais vous demander sur le site de la plateforme de simulation. On peut lire jamais la première fois sur un patient.
Et c'est aussi pour l'étudiant parce que l'étudiant plus libre il sera, plus finalement il sera ouvert, je dirais, à l'apprentissage. Le fait d'être face à un patient, il peut y avoir des blocages et l'étudiant à ce moment-là n'apprend plus, à ce moment-là, voire même être mis en échec et à ce moment-là n'apprend plus du tout. Alors ça ne veut pas dire qu'en simulation, on ne va pas des fois mettre les étudiants en échec, mais finalement c'est un échec relatif. C'est un échec plus intellectuel qu'autre chose. On apprend par nos erreurs, ici. Et l'erreur, elle est tout à fait permise. Elle est même autorisée. Elle est même favorisée.
Concrètement, l'étudiant, il va arriver. Il va être face à ce robot patient qui est malade et il va devoir déterminer quelle réponse apporter à cette situation.
Ah oui, non seulement la réponse. Enfin, il va déterminer la réponse. C'est-à-dire que ça va créer chez lui, ça va développer un raisonnement clinique qui lui permettra après d'échafauder non non seulement un diagnostic, mais évaluer un risque, évaluer une prise en charge et l'esprit d'une prise en charge avec un environnement qui est celui de l'hôpital, c'est-à-dire avec les outils de l'hôpital.
Et donc, s'il doit lui administrer un médicament, par exemple, est-ce que le robot va réagir au médicament comme un patient?
Bien entendu, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que le robot, lui, il est il est programmé pour répondre en fonction du produit, mais en fonction d'objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que l'étudiant a réalisé le geste qu'il fallait bien, le mannequin, lui, va évoluer dans le bon sens. L'objectif pédagogique n'est pas rempli, le mannequin va à ce moment-là se dégrader jusqu'au moment où il ne faudra pas qu'il meure, parce que de toute façon, on ne veut pas aller jusqu'à l'échec complet de l'étudiant. Donc, parce qu'on est quand même... on a une éthique en simulation, et ça, c'est un principe de base.
Donc ce mannequin, il ne meurt pas. On ne l'a pas décrit, le mannequin, peut-être qu'on peut prendre deux secondes. Il a la blouse du patient d'hôpital. On est dans une pièce qui ressemble à une chambre d'hôpital. Il est vraiment très ressemblant, en fait.
Alors, ça, c'est intéressant parce que on s'est dit, est-ce que finalement notre humanoïde, il faut qu'il soit comme un homme ou est-ce qu'il soit ressemblant de l'homme? Je pense qu'il faut qu'il soit très proche du symbole. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit tout à fait comme l'homme. C'est-à-dire que le fait que l'étudiant face au mannequin est obligé de faire une démarche de ressemblance. Il faut forcément que ça passe par une mentalisation. Et cette mentalisation, elle va être produite par cet écart un peu à la réalité vraie, quoi, en quelque sorte. Donc il ne faut pas que ce soit tout à fait vrai, il faut que ce soit de la simulation.
Mais suffisamment quand même pour susciter, un peu d'empathie ou quelque chose.
L'empathie, elle va naître aussi du formateur qui va parler pour le mannequin. On ira tout à l'heure dans la salle de débriefing, parce que tout ce qui est enregistré ici est renvoyé en direct dans une salle de débriefing. D'ailleurs, on dit, nous, dans notre milieu, dans le domaine de la pédagogie, on dit... pas de simulation sans débriefing. Comprendre, c'est faire des liens. Ce qu'on va faire finalement en débriefing, c'est créer des liens, voire délier des liens qui sont peut-être erronés en quelque sorte. Voilà ce que c'est que la simulation.
Donc là, on a soulevé la blouse et on a vu effectivement un zizi.
Et vous avez vu un zizi, en effet. Alors il y a des zizi garçons et il y a des zizi femmes. Il suffit simplement de demander aux techniciens finalement de changer. Voilà, c'est des zizi qui sont examinables, d'accord, et qui vont pouvoir être même sondables. Le mannequin, il peut faire pipi à la demande. On est vraiment dans l'authenticité.
On passe à la suite ?
Alors là, on entre dans une autre salle où on a de nouveau des robots qui sont allongés sur des lits, des adultes, un enfant et peut-être même une femme enceinte, non ? Qu'est-ce qu'on voit comme patient ? Vous pouvez nous expliquer ?
Alors ici, vous rentrez un petit peu dans la caverne d'Ali Baba de la simulation. C'est l'endroit où on va stocker toute notre flotte. On a une femme qui est gestante. On va avoir ici un autre simulateur comme celui qu'on vient de visiter, là. On a un petit... on avance, regarde, viens voir. On a un petit de 8 ans qui est capable, lui aussi, de pleurer, qui est capable de parler, qu'on va pouvoir ausculter, qui va pouvoir aussi être défibrillé et qui pourra donc nous faire un scénario. Enfin, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a une vingtaine de simulateurs de haute fidélité. On va avoir aussi des bébés, vous voyez, des tout petits bébés qui on va pouvoir examiner, on va pouvoir faire des soins de cordon si on veut. On a un tout petit prématuré de 28 semaines d'aménorrhée qui est capable de cyanoser, qui est auscultable, qu'on peut intuber. En fait, tous les soins au bébé de l'enfant prématuré de 28 semaines, on peut le faire sur ce mannequin-là. Voilà, vous êtes dans l'antre. Alors j'en profite pour vous dire qu'on a répondu à un appel à projet donc, dans le cadre du projet Muse, et on va être capable de projeter sur les murs pour créer de l'environnement, alors soit un bloc opératoire, soit le déchoc des urgences de la Péronie, où on ira filmer un accident de la voie publique sur l'autoroute une nuit en 360 degrés, l'idée étant finalement que l'étudiant apprenne dans ce contexte-là.
Et par exemple, cette fameuse gestante qu'on voit là, on peut les mettre en situation où l'accouchement se déroule de A à Z et ils doivent gérer complètement et éventuellement rencontrer des difficultés qu'ils vont devoir résoudre ?
Complètement, c'est le but de l'opération. Ceci dit, ça ne sera jamais de toute façon une vraie patiente. Jamais la première fois chez un patient, il y aura toujours une première fois chez un patient.
Alors, on est dans une nouvelle pièce.
Alors ici, on est dans le stockage du petit matériel. Là, on est sur de l'apprentissage du geste technique lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on s'intéresse qu'à l'aspect technique de la compétence. On explore aussi les compétences non techniques. On va faire ce qu'on appelle la simulation hybride. C'est, je suis l'enseignant, mais finalement, je vais être le patient. Et l'étudiant va être donc invité à réaliser une consultation. Sauf qu'à un moment donné, au cours de cette consultation, il y a un geste technique à faire. Et à ce moment-là, ce geste technique est déporté. Il va être fait à ce moment-là sur la partie du corps qui nous intéresse. Alors ça peut être la ponction lombaire, par exemple. Ça peut être une anesthésie loco-régionale. Ça peut être l'intubation. Ça peut être apprendre à faire des gestes alors qui sont assez intimes, quoi, en quelque sorte. Je pense par exemple au toucher vaginal. Le toucher vaginal, faire le geste pour le geste, est-ce que ça a finalement un intérêt ? Par contre, ce qui est important, c'est de créer une situation, je dirais un climat avec, avec la patiente, qui va lui permettre d'être assez détendue pour accepter le geste, pour que le geste à ce moment-là soit pertinent. Et ça, c'est important pour qu'il devienne ce patient, je dirais, acteur lui-même. Donc, il faut une personne dans son intégrité, c'est l'enseignant, ou un acteur. Mais quand il y a un geste à faire, on va le faire à ce moment-là sur des petites parties de corps.
Par exemple, là, on a un bras. Je peux le toucher ?
Ben,
d'accord, donc on a des parties plus molles là qui sont destinées à être piquées, par exemple.
Voilà, ponctionnées. On y va.
Alors là, vous êtes en train de nous montrer un bras et une épaule.
Un bras et une épaule. Ça, c'est pour apprendre à réaliser une ponction veineuse sous échographie. En fait, on forme ici les infirmières, une nouvelle technique pour laquelle ils n'ont jamais été formés dans la formation initiale.
C'est vrai que ça, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais il n'y a pas que des étudiants qui viennent ici. C'est aussi des médecins en exercice qui peuvent venir justement par faire un geste technique ou apprendre une nouvelle technique justement.
Ici, on apprend tout au long de la vie. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre. Il faut rester toujours ancré, je dirais, la tête dans l'université, en quelque sorte. Et tout au long, pour rester performant tout au long de notre vie. Hein.
C'est bien, vous faites une transition pour une question qui me taraude depuis le début de la visite. Comment on faisait avant d'avoir des plateformes de simulation ?
Eh bien, on apprenait sur le patient. Mais on avait le temps de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient, il arrive le matin, il sort le soir. Avant mon temps, le patient, il arrivait le lundi, il partait le samedi, ou voire même, il restait 15 jours, 3 semaines. Et on lui faisait à ce moment-là son check-up et tous les examens sur 2 semaines, 3 semaines. Maintenant, le patient, il est chez lui. C'est-à-dire qu'il vient simplement pour des examens et tout est rassemblé le même jour. Finalement, ces centres de simulation sont venus, comment vous dire, c'est imposé. On ne peut plus apprendre à faire des médecins performants comme avant. Parce qu'il n'y a plus de patients.
Justement, elle existe depuis quand la plateforme de simulation ici à Montpellier ?
Dès 1972, où les étudiants en médecine apprenaient avec des mannequins. Et ils n'apprenaient pas, comme on pourrait apprendre d'une manière très démonstrative, comme en secourisme. C'était déjà des situations simulées. Après, l'évolution, cette technique pédagogique a évolué en fonction aussi de la technicité. C'est-à-dire qu'on a rajouté, bien sûr, du numérique, de l'informatique sur tous ces mannequins. Et à cette période-là, on a eu le centre d'enseignement de soins d'urgence a eu un partenariat, je dirais, privilégié avec l'université. Et on a fait venir sur notre centre, sur le centre du CSU. Et cette collaboration s'est enrichie petit à petit. Et quand il a fallu, jeter les bases de la nouvelle faculté, eh bien, c'était tout à fait naturel qu'on retrouve le centre d'enseignement de soins d'urgence ici au sein de la faculté. C'est une belle collaboration entre le CHU et l'université.
Et juste, on a évoqué tout à l'heure le savoir-être. Et cette question de l'annonce du diagnostic, on en a parlé rapidement. Comment on fait pour apprendre à un étudiant à, par exemple, annoncer à un patient que lui ou son enfant ou un membre de sa famille souffre d'une maladie grave, par exemple ?
Eh bien, finalement, c'est la même manière qu'avec, je dirais, un patient qui sera un ordinateur, comme on l'a pu voir, Simone 3G. Hein. Sauf que là, ça va être un acteur. Et cet acteur, il va être amené à répondre à un scénario. Donc, ça veut dire que la simulation, on y voit, je dirais, le côté extrêmement technologique. Mais c'est une manière d'apprendre, finalement. On apprend en situation, en action.
Je m'appelle Tony Blot, je suis technicien en simulation de santé. Et donc, je travaille sur cette plateforme en collaboration avec nos collègues du CESU, du CHU. Mon travail consiste à préparer les travaux, recevoir les étudiants, les formateurs, et puis les assister dans leurs travaux et conduire en fait les simulations donc de manière technique, on va dire. Et puis aussi apporter une assistance auprès des formateurs pour que les formations se passent au mieux.
Et donc c'est vous qui vous occupez, qui bichonnez tous les robots qu'on a vus aujourd'hui dans les salles.
Oui, effectivement, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de l'entretien, de la maintenance. Je pilote effectivement nos simulateurs de manière informatique, mais je suis aussi l'écoute, l'assistant en fait du formateur pour qu'il puisse obtenir les résultats et les symptômes au moment où il le souhaite.
Donc c'est vous qui faites par exemple pleurer le robot ou qui faites s'emballer son rythme cardiaque s'il le faut ?
Voilà, s'il le faut et sur sa demande. Il faut savoir qu'en fait on a des scénarios qui sont enregistrés, qui se déroulent on va dire de manière automatique, mais il y a aussi souvent en fait de l'improvisation parce que ce qui est important en fait c'est de pouvoir s'adapter aux gestes en fait de l'étudiant. Et puis il faut aussi dans notre métier avoir des connaissances médicales de manière à pouvoir en fait comprendre quel est l'objectif pédagogique, où est-ce qu'il veut arriver. Oui, je dirais que c'est un beau métier quand même parce qu'en fait on reçoit toutes les disciplines. Ça nous permet d'apprendre énormément de choses. On enrichit en fait nos connaissances tous les jours. Lorsque je suis dans mon métier, j'ai l'impression d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de faire en sorte que ces gens qui viennent apprendre la médecine, eh bien, je contribue à faire en sorte qu'ils améliorent leurs gestes, qu'on améliore encore un petit peu plus la prise en charge des patients.
Alors là, on change de salle et on passe dans le couloir. Sur les portes sont affichés des panneaux. Il y a écrit à ma droite atelier arrêt cardiaque, à ma gauche atelier intubation. Et là, on va dans une salle de débriefing.
La transformation, je dirais, d'un savoir en connaissance et de connaissance en compétence, ça se passe ici. Donc l'étudiant va pouvoir visualiser ce qui s'est passé dans l'autre pièce, en direct.
C'est-à-dire qu'il a été filmé pendant toute la simulation et qu'il revoit la vidéo après ?
Alors, il peut revoir la vidéo. Ça, il va pouvoir d'ailleurs revoir cette vidéo. Mais surtout aussi ses collègues qui sont restés ici, qui ont pu l'avoir vu pendant la séquence de simulation. Et l'étudiant, après la simulation, il va débriefer. Il va débriefer sur ce qu'il a fait. Ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est justifier justement tout ce qu'il a réalisé. Alors, il se mémorise, il va pouvoir disséquer finalement ce qu'il a fait. S'il n'est pas capable de justifier, ben, le formateur sera là pour rajouter le patch, le lien cognitif qui permettra à l'étudiant justement d'avancer dans son raisonnement. Et la philosophie qui est derrière, c'est de se dire, après être passé sur le patient, le vrai patient cette fois-ci, est-ce que finalement j'ai bien fait ? Voilà. C'est cette culture finalement du débriefing à la suite d'une action qui est apprise en centre de simulation. Alors là, ce qui se passe, la particularité ici, parce qu'il y a quand même des particularités, c'est que toutes les salles sont des vidéoconférences. Même notre salle ici de débriefing. C'est-à-dire que je pourrais simuler dans la salle de simulation et finalement débriefer dans un grand amphi en bas. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais on pourrait aussi faire des multiplex, c'est-à-dire simuler à Béziers et débriefer à Montpellier.
Donc des plateformes de simulation, il y en a une donc là à Montpellier, il y en a une à Nîmes. Est-ce que toutes les facultés de médecine sont dotées de plateformes de simulation ou alors est-ce qu'à Montpellier on est particulièrement bien doté ?
Alors je pense qu'à Montpellier on est particulièrement bien doté. C'est-à-dire que ce travail, je dirais, très ancien, c'est 30 années, je dirais, de travail collaboratif entre le CESU et la faculté, a fait que finalement, on a pu développer une structure qui est, à mon avis, une des plus riches de France. On a vraiment des kilomètres de temps d'avance, mais c'est le cas de le dire.
Et est-ce qu'il y a encore certains gestes techniques complexes qui sont toujours pas accessibles à la simulation ? Ou est-ce que tout est possible ?
Dans l'imagination, tout est possible. On a dit tout à l'heure, ce qui était important, c'est de développer finalement de la mentalisation. Il faut que ce soit assez authentique, il faut que ce soit pas forcément la réalité. Ce qui nous importe, c'est le raisonnement.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet encore et toujours d'actualité, malheureusement, puisque nous parlerons traits de personnalité et observation des mesures de protection dans la lutte contre le Covid. D'ici là, bon vent et essayez tout de même de vous amuser.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.